Bonsoir et merci de suivre Radio Capi pour cette émission Tribune de la Presse. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit du lancement par le président Joseph Kabila du début des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le Bandundu et de la dissension au sein de l'opposition dite républicaine avec la création par l'aile Lisanga Bonganga d'une nouvelle structure dénommée Front Populaire. Objectif, s'opposer à toute tentative de la révision constitutionnelle. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadindanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir confrère, bonsoir auditeur.
Nous sommes également avec Daniel Safou, responsable du journal Le Point Saillant, plus un bi-hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Daniel Safou.
Bonsoir confrère.
Et enfin, nous sommes avec Georges Kasongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu de Kindu Omanyema. Bonsoir Georges Kasongo.
Bonsoir Samuel, bonsoir à Joël Kadindanga, également à Daniel Safo.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le lancement des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le Bandundu et la dissension au sein de l'opposition dite républicaine avec la création par l'aile Lisanga Bonganga d'une nouvelle structure dénommée Front Populaire figure parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La presse de cette semaine s'est penchée notamment sur le lancement du parc agro-industriel de Bukangalonzo et les dissensions au sein de l'opposition dite républicaine. Forum des As note que c'est le premier d'une série de parcs agro-industriels destinés non seulement à stimuler le développement de la RDC, mais aussi à mettre en valeur le potentiel énorme de terres arables dont dispose le pays. Depuis son avènement en avril 2012, lit-on dans les colonnes du quotidien, le gouvernement du Premier ministre Augustin Matata Ponyo a fait du secteur agricole la priorité absolue de son plan de développement national destiné à faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Pour lancer les parcs de Bukangalonzo, le gouvernement indique avoir mobilisé 83 millions de dollars. Grâce à ces parcs, commente de son côté l'avenir, Kabila veut offrir à la population congolaise une variété de produits alimentaires à des prix abordables, créer un système efficace de production alimentaire qui permettra à la majorité des Congolais d'avoir accès à une alimentation équilibrée. Pour les journaux, ce projet va non seulement permettre à la RDC de satisfaire les besoins de consommation intérieure, mais aussi de devenir un important exportateur de produits alimentaires à moyen terme. Les journaux de Kinshasa se sont penchés également sur le début de la publication des résultats de l'examen d'État, mais les quotidiens n'ont pas commenté les débordements qui ont accompagné la publication de ces résultats. La plupart d'entre eux se sont limités à rappeler les mises en garde des autorités pour éviter tout débordement. Forum des As indique ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa n'admet pas des comportements excessifs sur la voie publique lors de la publication de ses résultats qui a débuté lundi 14 juillet à Kinshasa. Même mise en garde à la une de la prospérité qui rappelle cet appel de l'autorité provinciale à l'endroit des chefs d'établissement, de la police, des bourgmestres pour lutter contre toute manifestation excessive sur la voie publique. Des mises en garde qui n'ont visiblement pas été entendues au regard du tapage observé lundi dans la soirée dans la ville après la publication des résultats de l'examen d'État. RadioCapi.net rapporte que le Front Populaire est le nom d'une structure récemment créée au sein de la plateforme politique opposition républicaine pour notamment s'opposer à toute tentative de révision constitutionnelle. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, l'initiateur de cette nouvelle structure, est le co-donateur de l'opposition républicaine.
Merci beaucoup Guy Maté, Joël Kadindanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News. C'est un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine, on l'a suivi dans la revue de presse, c'était la publication des résultats des examens d'État. On a constaté qu'après la publication de ces résultats, plusieurs lauréats de l'édition 2014 se sont livrés à des comportements excessifs. Certains se sont même déversés toute la nuit dans les artères de la capitale sur des motos ou penchés sur des voitures roulant à vive allure avec beaucoup de tapage. Des actes qui ont privé même le sommeil certains habitants de la capitale et de la plupart des quartiers. Et d'autres même ont rempli des bars où ils se sont livrés à des actes qui étaient vraiment déplorables et même enivrés de boissons. Et pourtant la veille, un communiqué, Joël Kadindanga, du gouvernement provincial de Kinshasa, mettait en garde les lauréats contre tout débordement sur la voie publique. Un petit commentaire par rapport à cette information.
Petit commentaire, c'est féliciter le ministère de l'EPSP pour le respect du calendrier en ce qui concerne la publication des résultats. À l'époque, vous vous rappeliez que nous attendions au mois d'octobre, décembre pour avoir les résultats aux examens d'État. mais c'est une bravoure qu'il faille féliciter. Mais en deuxième position, il faut décrier le manque d'encadrement de toutes les mesures gouvernementales prises, soit par la ville de Kinshasa ou même au niveau du gouvernement central. Il n'y a pas les mesures d'encadrement, il n'y a pas de mécanisme d'encadrement de ces mesures, donc il n'y a pas le mécanisme de suivi de ces mesures. C'est bien interdire les dérapages, mais il avait fallu mettre en place un mécanisme de telle sorte que l'on ne puisse pas déborder, parce que nous n'avons pas passé paisiblement la nuit, on a été dérangé jusqu'au petit matin. Il y a eu prostitution de ces jeunes gens, il y a eu pratiquement des bêtises qui ne peuvent même pas être dites sur la place publique.
Merci beaucoup, Joël Kadendanga. Daniel Safo, je rappelle que vous êtes responsable du journal Le Point Saillant, plus un bi-hebdomadaire qui paraît Kinshasa. En dehors des sujets qui ont été évoqués dans cette revue de presse, quels sont les autres sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine?
Au fait, les examens d'État, ça a dominé l'actualité, ça on ne peut pas les nier. Voir les jeunes gens finir les études, c'est l'avenir du pays. Ça attire l'attention de tout le monde. Mais ce qui est décevant, les gens à qui repose notre espoir pour l'avenir du pays, si le plan éthique et moral, nous n'avons pas de signaux forts. Nous avons l'impression que ces jeunes gens qui viennent de décrocher, n'est-ce pas, les examens d'État, ne nous rassurent pas par rapport, n'est-ce pas, à leur comportement. Il y a Heidegger, philosophe allemand, qui dit... n'est-ce pas, l'homme, on découvre l'homme par sa monstration. L'homme se découvre, il entend par monstration, c'est-à-dire gestes et langage qui impliquent les comportements immédiats, n'est-ce pas, de l'individu pour enfin les définir. Celui-ci, qu'est-ce qu'il peut nous donner à l'avenir, du bien ou du mal? Il va nous nuire ou il va accompagner la société dans son développement? Ça, c'est un constat amer de voir les jeunes qui, comme je l'ai dit tantôt, repose notre espoir pour l'avenir du Congo, se comporter de manière, par infirmité du langage, je dirais, déréglé. Alors, là, c'est de un. De deux, comme a dit mon confrère Joël Cadet, l'absence de l'autorité de l'État dans cette ville de Kinshasa. L'État ne fonctionne pas seulement par des décisions prises sans pour autant qu'il y ait un mécanisme de suivi.
Il y a quand même un gouvernement. Lorsque vous dites absence de l'autorité de l'État, il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place.
Non, nous avons un gouverneur qui décide sans pour autant qu'il y ait suivi. Il donne l'impression aux gens qui dirigent en prenant des décisions rigoureuses, mais qui n'ont jamais été mises en application. Il n'y a pas suivi. Il y a des décisions. Prendre les décisions, c'est bien, c'est une chose. L'applicabilité de ces décisions, c'est aussi une autre chose. C'est ça le problème. À quoi bon de demeurer dans la théorie pendant que la pratique s'éloigne de vous? Donc, en un mot, on peut dire l'absence de l'autorité de l'État de la ville de Kinshasa.
Merci Daniel Safou, je vous garde encore dans cette émission. Georges Kassongo, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Akis Abinadamo de Kindu Maniema. Comment est-ce que vous avez, vous, là-bas, vécu la publication des résultats de ces examens d'État?
Ok, merci Samuel. Les résultats pour la province du Maniema, ce n'est pas encore publié. Mais au moins, il vient de faire un petit rappel en arrière pour vous dire qu'à la cérémonie de la clôture de l'année scolaire 2014, le maire de la ville de Kindu avait décidé qu'il n'y ait pas de manifestation dans la route. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que même la police censée exécuter l'ordre n'a pas été informée de la décision. Voilà donc des mesures qui se prennent dans des cabinets pour y rester et faire plaisir aux journalistes ou à la presse. C'est un peu ça. Donc jusque-là, au niveau d'applicabilité des mesures, des décisions ou bien des arrêtés qui sont prises par l'autorité.
Oui, Georges Kassongo, au-delà de cette information, quels sont les autres sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine à Kindu, au Maniema?
Au Maniema, il vous conviendra de dire qu'il y a une pénurie en eau potable et en électricité. Contrairement à ce qu'on parle à Kinshasa, Kindu est électrifié, il y a ceci, il y a cela, je vous dis. Il serait mieux même de vivre au Sahel que de vivre à Kindu, au Maniema, où nous sommes traversés par des millions et des millions de mètres cubes chaque jour sans qu'il y ait de l'eau au robinet. Les courants, on l'appelle d'ailleurs ici, j'ai des lumières, c'est comme ça qu'il nous plaît. Une autre information, c'est les carburants, notamment les super légers qui a terminé la semaine en yo-yo. Nous avions débuté les lundis à 1900, il est passé à 3600 pour se stabiliser aux environs de 2300 ce vendredi. Et enfin, le décès du commissaire provincial de la PNC, le général breveté d'état-major Alexandre Baké Moïse-Oloqua, décédé à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Voilà les grandes informations qui ont dominé Kindu et le maniement en général.
Merci Georges Kassongo. Nous abordons directement notre premier thème de ce soir. Lancement mardi dernier par le chef de l'État du début des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le Bandundu. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, tant civiles que militaires. Il s'agit, selon certains officiels congolais, de la matérialisation de la vision de la révolution de la modernité dans le secteur agricole. Une initiative applaudie par tous les intervenants de la cérémonie de ce jour, à savoir le gouverneur de Bandundu, le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'entreprise sud-africaine chargée de la gestion de ce site. Mais que peut-on retenir de ce projet de Bukangalonzo? On écoute ce reportage de Mimi Ngumba Mulongo.
Le parc agro-industriel de Bukangalonzo est un site de 75 000 hectares. Il est situé entre les rivières Kwango et Lonzo, à 3 heures de route du centre-ville de Kinshasa. L'initiateur du projet, seul le gouvernement, compte consacrer près de 10 000 hectares de ce site à la culture des légumes et produits maraîchers tels que maïs, soya, oignons, piments, carottes, haricots verts, pour ne citer que ceux-là. Et c'est là, à partir du mois d'août, à en croire les gestionnaires du parc. Toujours dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction de poulaillers et des porcheries, sans oublier les investissements d'accompagnement dans des logements, écoles, électricité et un centre médical. Une initiative saluée par plusieurs personnes présentes ce mardi à Bukangalonzo, dont les députés Jean Kimbunda.
La province de Bandundu souscrit entièrement à ce projet. Nous voudrions maintenant lancer un appel aux investissements privés pour qu'ils prennent le relais de la production, de la transformation agricole, afin que véritablement nous puissions lutter contre la faim, contre l'insécurité alimentaire.
Notez cependant que pour l'exécution de ce vaste projet, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars américains.
Au sujet de ce parc agro-industriel, le ministre de l'Agriculture estime que c'est le début d'une série que le gouvernement compte installer dans toutes les provinces du pays. Chrysostome Varamwiti indique qu'avec la mise en service de ce parc agro-industriel, le gouvernement attend offrir à la population des produits alimentaires équilibrés et à des prix abordables. On l'écoute.
Avec le lancement aujourd'hui du premier parc agro-industriel pilote de Bukangalonzo, le gouvernement de la République attend passer à la vitesse supérieure dans la relance du secteur agricole de notre pays. En fait, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo dispose d'un énorme potentiel agricole avec au moins 80 millions d'hectares de terres arables. Une diversité climatique et un réseau hydrographique permettant à la République démocratique du Congo de développer une variété de cultures. Malheureusement, en dépit de ces potentiels, le niveau de production agricole reste trop bas et ne permet pas de freiner la malnutrition et la sécurité alimentaire. Cela est principalement dû au fait que les agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance qui nécessite aujourd'hui d'être aussi modernisée afin d'accroître la productivité et par ricochet la production et de répondre ainsi aux défis de la sécurité alimentaire.
Oui, Joël Kadindanga, comment est-ce que vous avez analysé le lancement de ces travaux de ce parc agro-industriel?
Il revient à féliciter le gouvernement de la République, féliciter le chef de l'État pour cette initiative, malheureusement prise en grand retard, parce qu'il aurait fallu commencer par là et peut-être inscrire la vision de ce pays dans ce que le feu Mzee Laurent Désiré Kabila avait commencé au niveau de Kanyama Kasese. À l'époque, on avait vu des cantines populaires et qui avaient été alimentées par les travaux, les projets de Kanyama Kasese. Mais plus tard, on a vu le gouvernement encouragé par pratiquement ses ministres à s'investir dans à ravir les ministres, les mandataires, à racheter les petites parcelles des pauvres, de pauvres orphelins, de pauvres veuves dans la ville, au lieu de s'investir dans ce qui consiste à être comme le secteur vital de la ville. Et s'il y a aussi à féliciter, c'est parce que notre pays a plusieurs potentialités, surtout dans le secteur agricole. Il faut quitter de l'agriculture des survies. Si vous voyez aujourd'hui, partout, chacun fait son petit champ, c'est tout simplement pour avoir les maniocs, les maïs pour manger et se réveiller demain. Et pourtant, nous avons des potentialités qui peuvent permettre à notre pays, si nous nous engageons dans une agriculture industrielle, tel le projet de Daipen, le projet de Bukangalonzo, donc nous pouvons aller plus loin, juste à devenir non seulement un grenier de développement pour l'intérieur, donc nous pouvons dispatcher la nourriture qui pourra être produite, les produits qui pourront sortir de Bukangalonzo, de Daipen, on pourra non seulement les redistribuer à l'intérieur du pays, mais aussi on peut les exporter vers les autres pays du sud, du centre, tout comme de l'ouest de l'Afrique. Alors, c'est un projet qui doit être encouragé, mais là où le chef de l'État doit aller plus loin, au lieu que les ministres se limite tout simplement à devenir des commerçants, les gouverneurs qui, au lieu qu'ils deviennent des commerçants, des agents immobiliers pour acheter les maisons, que chaque ministre ait ne fût-ce qu'une petite ferme dans son village. On vous a parlé ici, par exemple, du cas de Kindu, où notre confrère dit qu'il manque de l'eau, de l'électricité. Et pourtant, dans ce gouvernement, on a au moins quelques ministres ressortissants du Kindu qui pouvaient penser à leur terroir. Mais ce qui n'est pas le cas, mais leur argent qu'ils ont, c'est pour acheter des 50 immeubles, et ces immeubles-là, ils les achètent des pauvres orphelins, des pauvres veuves. J'ai entendu deux conseillers du Premier ministre qui sont allés ravir la parcelle d'un pauvre individu. Donc, si le chef de l'État peut encourager tout le monde à s'investir dans l'agriculture, je crois qu'on aura résolu beaucoup de problèmes dans ce pays.
Daniel Safou, Joel Kadindanga salue cette initiative du chef de l'État. Il dit que c'est un projet à encourager. Comment vous analysez le lancement de ce parc agro-industriel?
C'est de la récupération politicienne pour des besoins électoralistes.
Pourquoi?
C'est un projet à moyen terme qui a valu au moins 80 millions. Il y a là des privés là-dessus. C'est de la récupération politique.
Vous ne pensez pas qu'il peut commencer quelque part?
En fait, l'initiative est d'abord provinciale. C'est Camisène, à l'époque, il y a, je crois, en 2012. C'est Camisène qui lance cette histoire. L'initiative est d'abord provinciale. Et l'ampleur, aujourd'hui, c'est pourquoi je parle de la récupération politicienne pour des raisons électoralistes. Et d'ailleurs, au-delà de cela, pourquoi on n'aura pas ce genre de choses dans chacune des provinces? S'il faut parler des cinq chantiers, parce qu'il n'y a jamais eu une transition entre les cinq chantiers et la révolution de la modernité. Le passage n'a jamais été indiqué. C'est brutal, pouf, parachuté, directement, c'est la révolution de la modernité. Si les cinq chantiers avaient réussi son rendez-vous, parce qu'il faut reconnaître que les cinq chantiers ont raté son grand rendez-vous. Si les cinq chantiers avaient réussi son grand rendez-vous, je crois qu'on aurait ce genre d'histoire dans chacune des provinces de notre pays. On aurait Bukangalonzo au Bakongo, on aurait Bukangalonzo au Maniema, on aurait Bukangalonzo à Kindu, on aurait Bukangalonzo, on aurait créé ce qu'on appelle les pôles de développement. Et pourquoi on n'en a pas connu, évidemment, dans les secteurs d'agroalimentaire, on n'a jamais connu cela. Ça vient pratiquement toujours à l'approche des élections. Vous avez des inventions, vous avez des initiatives. C'est bien bon. Ça doit nous gêner. Ça doit nous gêner parce qu'un des axes prioritaires, tel que chanté dans les cinq chantiers, notamment c'était, n'est-ce pas, l'agriculture. Mais cet axe, on peut accepter que ça a échoué. C'est à la révolution de la modernité maintenant que cet axe devient opérationnel. Coup de chapeau, merci. On n'est pas contre, on est pour ça, mais le souhait serait que nous puissions remarquer des Bukangalonzo partout,
dans toutes les
provinces.
Mais Daniel Safou, au-delà des intentions politiciennes, est-ce que cette idée ne peut pas être saluée?
Oui, non, saluée, évidemment, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne saura en aucune
non,
fois...
Non, commence quelque part.
Non, ça ne saura en aucune fois absorber la famille du peuple congolais. Admettons, si on avait fait cela il y a longtemps, pendant la période des cinq chantiers, avant que la révolution de la modernité arrive, je crois qu'on aurait déjà résolu le problème de la famine au Congo. Oui, on aurait déjà résolu ce problème. Mais moi, je pense, le seul encouragement
Nos ministres doivent éviter la communication politique. Ce que je viens d'entendre, n'est-ce pas, au ministre de l'Agriculture. Maintenant, nous allons passer à la vitesse des croisières, à la vitesse supérieure. C'est le même discours. Le peuple n'a plus besoin de ce discours. Le peuple a besoin de la praxis, de la pratique. Ça ne sert plus à rien. Vous comprenez? Vous attendez, vous avez attendu pendant combien de temps pour passer à la vitesse supérieure? C'est de la communication politique. Les Congolais n'ont plus besoin de la communication politique, ils ont besoin de la pratique, de la praxis, de la réalisation, qu'ils montrent où on peut produire et avancer les peuples d'aller de l'avant. Donc, j'encourage, mais tout en critiquant l'aspect, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous voulons des Bukongalonzo partout. Nous voulons Bukongalonzo Katanga, Bukongalonzo Maniema, Bukongalonzo Obakombo, Bukongalonzo, le surtout Kinshasa d'ailleurs. Merci. Là encore, c'est regrettable.
Oui, Daniel Safo, je vous regarde encore dans cette émission. Georges Katongo, vous avez suivi Joël Kadindanga et Daniel Safo. Comment vous avez reçu cette idée du lancement de ce parc agroalimentaire du Bukongalonzo à Kindu Maniema? Comment est-ce que ce projet a été reçu?
Le projet... Merci beaucoup Samuel Kachak. Le projet a été réussi avec beaucoup de fastes dans plusieurs milieux socio-économiques de la province. Mais la grande question pour moi, c'est de commencer par dire merci au gouvernement pour, ou bien de la part de nos amis de l'ancienne province de Léopoldville, qui ont tout gagné dans les deux mandats de Joseph Kabila, des routes, des parcs agricoles et autres. Dites même que mon grand Kivu attend, alors qu'il ne nous reste que 2 ans et demi, on ne sait pas à quand cela arrivera. J'ai suivi le ministre de l'Agriculture avec beaucoup d'intérêt. Il y pense déjà à exporter, sans pour autant penser comment ça pourrait atteindre Isiro, Sekebanza ou bien Luisa, cette production de Bukongalonzo. Une grande question. Pourquoi assassiner Kanyamaka Sese pour aujourd'hui qu'on puisse venir festoyer avec pompe Bukongalonzo, le statut de Bukongalonzo? Et c'est privé ou public? Si c'est privé, pourquoi la présence massive de toutes les autorités? J'ai vu du président au vice-ministre. Ça c'est quoi? Ça signifie quoi si c'est privé? C'est de la récupération politique, comme l'a dit tantôt mon confrère. Et c'est là les Congolais ont évolué, connaissent déjà ces histoires de choses. Mais si Bukongalonzo est public, pourquoi ne pas associer les services nationaux, la réserve stratégique qui a éprouvé des performances dans le passé? Pourquoi ne pas associer cela? Et si c'est public, qu'est-ce qu'est venu faire Africom dans cette histoire de Bukongalonzo? Voilà les questions auxquelles la population du Congo devait au moins s'y pencher. En dehors de ça, les 83 millions mobilisés par le gouvernement central, mais ça n'a pas été discuté au moment du débat du budget 2014. Moi, j'ai suivi le débat avec intérêt à l'Assemblée nationale, là, à Kinshasa, mais je n'ai pas suivi qu'il y avait certains 83 millions qui seraient dévotés au secteur agricole. On n'a pas suivi ça. Et l'origine, c'est comment? Ça se passe comment? Nous voulons que, aussi... S'il faut positiver, ne pas être emprisonné par la théorie de l'autoflagellation, c'est dire que le gouvernement passe effectivement à la vitesse supérieure, qu'il y ait d'autres Bukongalonzo au Katanga, au Bas-Congo, dans les Dekasai, Momaniema, Nord, Sud-Kivu, comme dans l'Équateur. Vous voyez, c'est ce que nous devons attendre. Mais la situation également des travailleurs, je suis au courant de tout ce qui s'est passé à ce côté. Les travailleurs, c'est du néocolonialisme. Imaginez-vous que les travailleurs de Bukongalonzo gagnent 1500 francs par jour. Ils n'ont pas droit aux soins, ils n'ont pas droit au transport et tout, et tout, et tout. Imaginez-vous cela. Est-ce que ça répond même au SMIC? Qu'est-ce qu'on a eu?
Merci beaucoup, Georges Katongo.
En outre, je devrais terminer. Bon, ce sont les mêmes personnes, les descendants de ceux qui ont conservé, qui ont confisqué 80% des terres arables en Afrique du Sud, qui revient cette fois-ci au Congo. Et il est temps pour les Congolais de voir qu'est-ce qui se passe de très près du côté de Bukongalonzo, parce que demain, on ira encore se mordre les mains, dire que, oh, voilà, on ne savait pas. Il est plus que temps au gouvernement, ainsi qu'aux leaders locaux, de voir réellement ce qui va se faire à Bukongalonzo, que de se laisser emporter par les trompettes et les histoires de fêtes qu'on a vécues le mardi dernier.
Je vous vois instamment demander la parole, mais laissez-moi quand même vous poser aussi une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce projet de Bukangalonzo pourrait avoir un impact négatif sur les petits agriculteurs qui sont là et qui ont toujours évolué dans différents villages?
Oui, c'est ce que le confrère venait d'alerter tout à l'heure, mon confrère de Kindu, dont j'apprécie la pertinence des analyses, alors qu'il est très loin de Bukangalonzo. Donc, vous sentez que... on ne voit que l'aspect politicien, on ne voit que l'aspect publicitaire du marketing politique pour des raisons électoralistes, comme l'a dit Daniel, mais on ne voit pas l'implication de ce projet sur les espaces des communautés locales, des communautés indigènes, si vous pouvez me passer le mot, de ces contrées. On ne voit pas ça. Et puis dans notre pays, on a eu une mauvaise habitude, on se moque du chef de l'État. Il ne faut pas réduire le chef de l'État à un agent inaugurateur, hein, à un agent de lancement des activités. Donc on le voit partout. C'est comme s'il n'a pas à faire que d'aller couper les rubans symboliques de l'hôpital de Mutombo Dikembe, d'aller là-bas. Non, il ne faut pas réduire le chef de l'État à ce niveau-là. Hein? Et c'est ce qu'il faut condamner dans ce pays où les ministres, même pour l'inauguration d'un dispensaire, on doit voir tous les ministres quitter son bureau pour aller inaugurer. Ces histoires-là réduisent la carrure du président de la République. Ça, c'est d'un. Des deux, il faudrait éviter les promesses fallacieuses à la population congolaise. Lorsqu'il y a eu lancement du parc agro-industriel de Daipen, un truc des privés où les gouvernements récupèrent pour tout simplement, ou d'ailleurs certains membres du gouvernement auraient des capitaux, mais on a fait du bruit, du tapage que le produit, les denrées alimentaires, les prix des produits alimentaires vont connaître la baisse. Mais contrairement à cela, c'était un mensonge grossier. Parce qu'à la fin de l'année passée, alors que nous attendions le produit de Daipen, les prix ont été revus à la quintuplation. Donc, les prix ont été quintuplés à tel point que les gens n'ont pas pu accéder facilement aux poissons, aux chinchards, aux thomson. Les gens n'ont pas pu accéder aux poulets qui ont connu une augmentation du prix très, 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 très vertigineuse. Donc, c'est juste pour répondre à votre question, dire ceci, il faudrait... l'alerte du confrère de Kindu est très importante. Il faudrait que l'on voie, bien sûr, que les 80 000 hectares, c'est un vaste espace. Est-ce que, s'il a des implications sur les communautés locales, sur les villageois, il faudrait entrevoir les mécanismes pour que cela ne se trouve pas empêcher d'accéder à leur espace vital. Parce que, comme je l'ai dit, l'agriculture dans notre pays ne garde que son aspect de survie pour les populations locales.
Daniel Safo, une réaction?
Et ma réaction, ça fait mal. Ça fait mal quand vous avez des autorités au sommet de l'État, ils se placent à mentir tout un peuple. J'aimerais partir juste d'un petit paragraphe, n'est-ce pas, du discours du ministre de l'Agriculture. Quand celui-ci dit, nous allons exporter dans son fort intérêt ce qu'il dit des mensonges. Est-ce que Bukangalonzo est à mesure d'absorber la famine congolaise? Vous allez exporter quoi? Vous voulez donner l'impression aux gens que vous commencez à exporter? Ou seulement par communication politique? C'est ça que moi j'appelle de la communication politique. Les Congolais suffisamment outillés aujourd'hui par le biais de ces journalistes.
Mais le ministre a dit aussi qu'on va étendre Bukangalonzo à toutes les provinces.
Il va le faire quand? Quand? Bukangalonzo a plus combien de temps? Non, Bukangalonzo a plus combien de temps? Le mal en est que nos frères qui sont au pouvoir oublient que l'exercice du pouvoir, c'est un mandat. C'est pas peut-être plus. On parle de 2 ans. Bientôt là, c'est 2 ans la fin du mandat. Ils vont créer des Bukangalonzo partout dans 2 ans. Vous avez été dans un sommeil dogmatique pendant longtemps. Vous êtes resté dans la distraction. Et maintenant, vous dites que non. C'est maintenant que nous passons à la vitesse supérieure. C'est ridicule pour notre pays. Faisons des choses rationnellement. Disons des choses vraies. Évitons de tromper les peuples. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est le sujet de Bukangalonzo. C'est-à-dire quoi? L'agent, le sujet qui a la main d'œuvre, voilà. Quel est le traitement réservé, n'est-ce pas, aux ressortissants de Bukangalonzo ou aux ressortissants de ma province de Bandundu? Quel est le traitement prévu? Ce n'est pas de l'exploitation. Ce n'est pas de l'exploitation de l'homme par l'homme où le sujet est entretenu en tant que valeur. Où le sujet est entretenu et soutenu, parce que il me semble que les écoles constituent encore un projet, les dispensaires sont encore un projet, qu'on mette tout aux besoins
du sujet, n'est-ce pas, de Bukangalonzo, c'est-à-dire, j'entends par sujet de Bukangalonzo, la main-d'œuvre, un traitement adéquat. Et au-delà de cela, comme a dit mon frère Joël, évitons de la récupération politicienne. Quand vous avez du sommet de l'État au dernier de la majorité présidentielle, se retrouver tous, n'est-ce pas, Bukangalonzo, c'est de la récupération politicienne. Ça ne fait pas du bien. Les gens ont déjà compris le jeu. Les gens ont compris. Et les gens sont devenus sages et prudents. Rationnel même.
Merci Georges Kasongo. Nous terminons ce premier sujet avec vous. Selon vous, quel pourrait être l'impact de ce projet dans la relance de l'agriculture en RDC?
Oui, Samuel Kachak. D'abord, je devrais commencer par ici, dire que nos dirigeants oublient normalement les vrais niveaux de la population qu'ils dirigent. Lorsqu'ils se mettent devant les micros et les caméras, ils croient qu'ils sont devant les Congolais de 1960 ou bien de 1982, ce qui est, à mon avis, c'est se tromper de cible. Les Congolais a ouvert grandement son œil, il a évolué et il est dans les standards de tous les peuples du monde, en dépit de ce qu'on peut lui coller à la porte. Mais le problème, c'est quoi? Les chefs doivent comprendre que il est entouré par les anciens mobutistes. Ils viennent avec les mêmes méthodes, les mêmes théories, la démagogie, les utopies et consorts. Mais ils risquent également de l'accompagner comme ils ont accompagné Mobutu au Maroc. Voilà le comble. Le chef doit sortir de son silence. Il ne doit pas être réduit à un agent inaugurateur. Le chef doit avoir l'œil et l'oreille pour connaître ce qu'il doit faire et surtout se démarquer, revenir au bon sens qui a caractérisé son avènement au pouvoir. Mais le projet de Bukangalonzo, ça aura quel impact? 80 000 hectares, quelque part au Bandundu. Et vous êtes sans oublier que le Bandundu, c'est l'une des provinces qui font face à des problèmes de malnutrition ou bien d'insécurité alimentaire, d'abord au Bandundu. Ajoutez à cela les 12 à 10 millions de Quinois qui, pour la plupart, n'ont pas de champs, n'ont pas de quoi azoum. Mais qu'est-ce que ça va faire? Alors, cette théorie de croire que le Congo s'est limité à Kinshasa, ça c'est un autre problème. Moi, je pense que nos dirigeants ne voient pas le Congo dans sa taille, comme disait Lumumba, que nous devons grandir pour voir le Congo dans ses vraies dimensions.
Merci.
Est-ce que qui représente Bukangalonzo pour moi qui suis à Kindu? Pour celui qui est à Aru, par exemple? Celui qui serait, par exemple, à Manono, qui représente Bukangalonzo? C'est, à mon avis, quelque chose comme ça, des cérémonies, de la publicité, et juste du mativisme politique, et ça n'aura aucun impact pour mes frères qui sont à Bikenge, par exemple. Qu'est-ce qu'ils auront de Bukangalonzo?
Merci.
Alors, nous devons... Ok?
Merci, Georges Kasongo. Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. Une nouvelle structure pour l'opposition républicaine, elle, Lisanga Bonganga. Cette opposition a décidé de s'investir dans le processus d'un front populaire pour s'opposer à toute tentative de révision constitutionnelle. La création de ce front a été annoncée vendredi dernier lors de l'installation des animateurs des structures de cette opposition républicaine dissidente. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien modérateur devenu désormais coordonnateur national dans cette nouvelle structure, l'a déclaré au micro d'Innocent Olenga.
Nous avons compris que le grand combat aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'élément qui nous divise avec les autres, c'est la révision de la Constitution. Nous nous sommes constitués en un front. Le front populaire contre la révision constitutionnelle et pour les élections crédibles. Qui sont membres du front? Que ce soit la société civile, que ce soit les églises, que ce soit nous les politiques, tous. Nous devons nous retrouver dans une sorte de front populaire pour barrer la route à la révision constitutionnelle, barrer la route à ce qu'il n'y ait même pas un article auquel on va toucher. Parce que vous connaissez notre slogan, révision constitutionnelle, non, président sa vie, non.
Oui, mais comment vous allez mener vos actions?
Les actions, nous allons les mener de la manière suivante. On ne peut pas tout dire, il y a certaines actions qui relèvent de la stratégie. Mais la semaine prochaine, nous allons commencer à donner notre calendrier. Nous serons obligés de descendre auprès de la population pour démontrer qu'avec ce Sénat de 2006 et l'Assemblée nationale, entre guillemets, de 2011, on ne peut pas réviser une constitution.
Joël Kalendanga, encore une dissidence dans l'opposition, cette fois-ci républicaine. Votre analyse?
Il n'y a jamais eu d'opposition dans ce pays en ce qui concerne ce qu'on appelle opposition républicaine. C'est de la masturbation politique, s'il faut emprunter le mot à Harold Bellarmé Badibanga, ou de la prostitution politicienne. Vous savez, ces gens, ils se sont cru prendre, mais ils ont été pris. Vous savez, à l'initiative du chef de l'État, lorsqu'il fallait appeler toutes les forces vives de la nation pour se réunir autour d'une table, enfin, de faire fond à l'agression de notre pays, il a été décidé, les concertations nationales. Mais dans les concertations nationales, la vraie opposition est restée en dehors. Qu'il s'agisse de l'opposition politicienne de Kinshasa ou de l'opposition armée qui se retrouvait en Ouganda à l'époque, à Bunagana, donc dans le M23, qui n'était pas là. Alors, pour pousser les gens à venir dans ces concertations nationales, Kengo a menti, comme nous l'avions dit. Kengo a menti à ses poulains qu'il pouvait facilement manipuler, à Mobutiste qu'il pouvait facilement manipuler. Il leur a promis un gouvernement d'union nationale. C'est sorti de la bouche de Kengo. C'est comme ça tous les prostituées politiques ont accouru, espérant, n'est-ce pas, à avoir accès au pain, au gâteau, qui n'est autre que le pouvoir. Malheureusement, le chef de l'État, ayant compris que leur souci n'était simplement que d'accéder au pouvoir et au pouvoir pour le pouvoir, il leur a barré la route et c'est du bluff. Maintenant, qu'il s'agisse du côté du chef ou de l'opposition républicaine, ils se sont tous trempés dans une sorte de mensonge à la population. Et malheureusement, comme dans notre pays, les ridicules ne tuent pas, les gens sans scrupules, on continue encore à fomenter des mécanismes, des stratagèmes pour revenir au pouvoir qui leur a déjà échappé. Donc c'est comprendre qu'il y a manque de scrupules dans ce pays. Bon, c'est normal qu'aujourd'hui ils comprennent qu'ils ont été bluffés pour créer un autre mécanisme de retour au pouvoir, mais ça c'est de un, des deux. Moi je ne comprends pas, les gens ne savent même pas maîtriser à qui revient le bénéfice, n'est-ce pas, je vais atterrir par là, à qui revient le bénéfice de cette prolongation, de discussions sur la révision constitutionnelle. C'est au Sénat, dirigé par Kengo, que l'on trouve tous comme un animal politique qui sait margouliner tout, qui sait moudre tout le monde dans son moulin. Vous allez comprendre que en profitant de toutes ces prolongations, de toutes ces concertations, ainsi de suite, il reste au pouvoir en tant que président du Sénat et par ricochet, toutes les assemblées provinciales, tous les gouvernements provinciaux, et les gens ne comprennent pas qui tire bénéfice. Tout le monde vise le chef de l'État qu'il veut réviser la Constitution pour rester au pouvoir. Les gens ne voient pas la personne à qui revient le bénéfice de toutes ces prolongations, de toute la révision. Lui reste au pouvoir. C'est du margoulinage, mon confrère de Kindou a dit. Si le chef ne comprend pas, plus tôt, il pourra être pris à court comme son prédécesseur Mobutu au Maroc, où personne ne l'avait accompagné au cimetière, au petit cimetière de Maroc.
Daniel Safou, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Je vais vous demander une brève réponse. Comment est-ce que vous avez analysé cette dissidence dans l'opposition républicaine?
Non, non. Nous devons faire très attention. L'homme risé, n'est-ce pas, se cache derrière les concepts, derrière les mots. Il n'existe pas une opposition. L'opposition républicaine, ça c'est un montage. C'est du bluff, comme a dit mon ami. Vous savez, Lisanga Bonganga, je les trouve aujourd'hui un enfant prodigue. Quand vous prenez les mouvements qu'ils viennent de mettre en place, l'idéal c'est quoi? Ils sont revenus, n'est-ce pas, à l'idée première de l'opposition démocratique. J'aimerais préciser, nous avons une opposition démocratique où vous trouverez des Franck Diongo, des Martin Fayulu, des Kamere, des Tshisekedi Wamulumba. Là, c'est l'opposition démocratique. Mais nous avons une opposition qui n'est pas d'ailleurs opposition, mais il veut se coller les termes opposition où vous trouverez Kengo Adondo, autorité morale. Honte pour cette génération. Honte pour notre génération. Comme a dit William Abraham, j'ai maudit cette classe politique de chercher à crucifier les peuples congolais. J'ai maudit davantage cette classe politique.
Ce n'est pas trop fort comme mot.
Ce n'est pas trop fort, mon frère, mais qu'est-ce qu'ils sont allés? Aujourd'hui, si Kengo Adondo doit se passer d'un opposant dans ce pays, c'est ridicule pour nous-mêmes. J'aimerais revenir. Lisanga Bonganga, aujourd'hui, s'est fait passer d'un enfant prodigue. Il a compris que Kamere avait raison. Il a compris que Fayulu avait raison. Il a compris que Franck Diongo avait raison. Il a compris que l'opposition démocratique avait une vision pour ce peuple. Et que cette opposition politique démocratique ne cherchait que les biens du peuple. Mais par contre, l'opposition entre guillemets républicaine, c'est une opposition des opportunistes.
Vous comprenez? C'est cette opposition-là qui ne travaille qu'en fonction d'eux-mêmes. Merci. C'est-à-dire que pas en fonction de la communauté.
Merci, nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission.
La nuisance.
Merci.
Et l'expertise du mal.
Merci, Daniel. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Georges Kasongo, je veux vraiment vous demander une brève analyse. Comment vous avez analysé cette dissension au niveau de l'opposition républicaine?
Oui, Samuel, pour ne pas revenir sur ce qui a déjà été dit, j'allais être stupéfait pour ne pas parler d'être étonné par Lisanga Bonganga, qui est un véritable briscard de la scène politique de notre pays, s'est laissé rouler dans la farine par Léon Kengo Adondo, qui lui n'est pas de l'opposition, ni encore moins un opposant. Bon, s'il faut revenir sur quelque chose, c'est rappeler l'article premier de la loi portant statut de l'opposition à la République démocratique du Congo est opposant toute personne qui n'est pas membre du gouvernement, qui ne partage pas les mêmes opinions avec le gouvernement et qui ne soutient pas les actions du gouvernement. Mais Léon Lobik, alias Kengo Adondo, depuis quand il a été opposant? C'est un homme, à mon avis, qui est là sans une vision politique. Son seul souci, c'est de se faire un fonctionnaire politique. Justement, il a fait de la politique.
Georges Kasongo, évitons de citer les noms des personnes qui ne sont pas là pour se défendre. Essayons de recadrer le débat de votre analyse par rapport à cette dissension au sein de l'opposition dite républicaine.
Merci beaucoup. L'opposition républicaine, c'était une plateforme qui était fondée de toutes pièces pour échanger des postes ministériels ou bien des mandataires contre la révision de certaines dispositions de la Constitution. Donc l'opposition républicaine n'a jamais été une opposition au regard de son fondateur, son initiateur et tout ce qui se trouve dans l'opposition républicaine. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est dans l'opposition exerce en même temps des fonctions de l'exécutif, par exemple? Vous voyez qu'il y a incompatibilité. Donc l'opposition républicaine, c'était de la vaste blague, des gens à la recherche du pouvoir facile, comme l'a habitué le feu maréchal Mobutu, à l'issue des compromis politiques, ils avaient des postes, les matins, ils venaient s'agenouiller. Voilà l'objectif de l'opposition républicaine. Lisanga Bonganga a compris et il est revenu à ses bons sentiments. Et à moi de lui dire qu'en politique, il n'y a pas d'amis et encore moins d'ennemis éternels, seuls les intérêts comptent. Il n'est pas dangereux pour lui de se rallier à ses confrères qu'il a laissé dans l'opposition.
Merci Georges Kasongo, je considère cela aussi comme votre conclusion en un mot, Daniel Safo, puisque nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Dans ce contexte alors, quel avenir pour cette opposition congolaise?
Oui, l'opposition congolaise a l'avenir, parce que c'est cette opposition-là qui aujourd'hui est soutenue. Non pas seulement soutenir, partagent les mêmes idéaux. Ils sont dans la lignée de John Kerry, ils sont dans la lignée de l'Église catholique, ils sont dans la lignée de Tshisekedi, ils sont dans la lignée de Kamere, ils sont dans la lignée de Frank Diongo. Ça veut dire que l'opposition congolaise aujourd'hui, la vraie alors, c'est ce que j'appelle l'opposition démocratique, et si la bonne voie, dans la mesure où et la communauté internationale et la dynamique interne, n'est-ce pas, s'accorde de violon pour l'avenir, n'est-ce pas, du Congo. Par contre, ceux qui sont allés, n'est-ce pas, aux concertations nationales, l'ensemble des peuples congolais devenus vigilants a compris que là, ce sont des opportunistes.
Merci.
Ce sont des profiteurs.
Merci Daniel Safou, c'est votre conclusion également. Nous terminons avec vous, Joël Kalindanga. Quel avenir pour l'opposition congolaise?
L'opposition congolaise devra se reconstituer autour des hommes de dignité, des hommes d'honneur, pas des hommes qui ont besoin d'argent, pas des fonctionnaires politiciens comme les Kengo Adondo, les gens qui veulent demeurer éternellement au pouvoir, mais des hommes dignes qui cherchent leur dignité, l'honneur à leur nom et qui vont léguer un honneur à leur propre personnalité après eux. Donc qu'il y ait des gens, mais à voir la manière dont les choses évoluent, j'ai peur qu'il n'y ait d'opposants
comme ceux que nous avons connus durant la Deuxième République.
Merci Joël Kandindanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Je recevais également dans cette émission Daniel Safou, responsable du journal Le Point Saillant Plus, un billet hebdomadaire paraissant à Kinshasa, et Georges Kassongo, journaliste à la radio Akita Binadamo de Kindu Omanyema. La partie technique de cette émission était assurée par Guy Manzangou. Guy Matete à la réalisation. Samuel Kachak vous a présenté cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.